I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour et bienvenue dans le podcast Biomécanique, le podcast qui vous aide à comprendre la mécanique du corps, à améliorer votre pratique sportive, à combattre vos douleurs et blessures et qui vous permet de découvrir les secrets des sportifs, des athlètes et des spécialistes de leur domaine. On y parle d'entraînement, de performance, de nutrition, de thérapie et tout ce qui touche de près ou de loin à la santé avec des top invités pour chacun des épisodes. Je m'appelle Jérôme Cazerolle, je suis ostéopathe à Montréal. Je reçois aujourd'hui la première femme dans le podcast, il était temps après plus de 30 épisodes. Je connais Chloé et son contenu depuis quelques années, étant tombée sur ses vidéos lors de recherches spécifiques passées. Elle a démarré sa chaîne YouTube en parlant de fitness, de musculation pour les femmes, dans un univers fitness déjà bien rempli, puis a élargi son discours, ses sujets, ses contenus, pour des raisons que l'on prendra le temps de discuter dans l'épisode. Aujourd'hui, elle n'hésite pas à parler sur ses plateformes de sujets aussi variés et complémentaires que le développement personnel, le bien-être, l'entrepreneuriat aussi. Et aujourd'hui, elle est suivie par plus de 100 000 personnes qui reçoivent ses conseils pour une vie plus saine et sereine. Dans cet épisode, vous allez découvrir pourquoi elle a démarré la musculation à ses débuts et si aujourd'hui, après tant d'années de sport et de travail sur soi, elle accepte son corps. Comment celle du contexte fitness actuel, notamment sur les réseaux sociaux. On va aussi discuter des conséquences que peut avoir des prothèses mammaires sur la posture et le dos. Comment la natation l'a aidé et peut vous aider aussi à gérer un spondylolisthésis. On prendra le temps d'expliquer ce que c'est. On abordera son avis sur l'ostéopathie et la chiropraxie. Et enfin, on discutera de détox. Est-ce que c'est du bullshit marketing? On va essayer de définir ce que c'est qu'une détox, dans quel contexte, pourquoi faire une détox et quel intérêt ça peut avoir et en tout cas, quel a été son retour d'expérience là-dessus. Je vous laisse maintenant écouter cet épisode avec Chloé, j'espère qu'il vous plaira et on se retrouve à la fin pour une petite conclusion. Bonjour Chloé, très content de te recevoir sur le podcast.
Eh bien écoute, merci beaucoup pour cette invitation.
Et non, mais ça me fait plaisir et ça me fait d'autant plus plaisir que tu es la première femme, fille à passer sur le podcast, sportive à passer sur le podcast. Donc je suis à la fois honoré et puis tu as aussi les honneurs d'être la première fille à passer sur le podcast biomécanique.
Ben écoute, merci beaucoup. Je suis étonnée, mais du coup, merci beaucoup.
Et ouais, alors tu sais que moi, j'ai essayé de contacter beaucoup de sportives, de femmes qui sont soit dans le milieu de la thérapie, du sport, des athlètes. Mmh. Et malheureusement, j'ai pas eu beaucoup de réponses, beaucoup d'acceptations. Ouais. Je sais pas pourquoi, je vais essayer de réitérer. Je ne veux absolument pas qu'on me catalogue comme podcasteur sexiste.
Je comprends la problématique, mais oui, c'est étonnant mais c'est toujours intéressant aussi d'avoir des voix féminines aussi sur ce genre de sujet, donc j'espère vraiment que, j'espère que tu pourras avoir des réponses, et puis si je peux t'aider de donner des contacts, n'hésite vraiment pas en tout cas, parce que je pense que c'est intéressant.
Eh bien, je te remercie, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux me parler de ton premier entraînement dans une salle de sport, premier entraînement classique, ou peut-être ton premier souvenir de sport, tout simplement?
Ouais. Alors, première fois que je suis entrée dans une salle de sport, je me rappelle, j'avais un survêt hyper large, le t-shirt de mon copain de l'époque hyper large qui me descendait jusqu'aux genoux, et j'ai fait que me demander tout le long, qu'est-ce que je fous là? En fait, j'avais toujours eu un peu une aversion pour les salles de sport parce que j'étais persuadée que c'était soit les beaufs qui faisaient du sport en salle, soit que c'était un truc réservé aux mecs, et j'avais l'impression vraiment de pas du tout être à ma place. Et en même temps, moi j'avais envie de faire du sport parce que j'acceptais plus du tout mon corps comme il était. Et je me rappelle vraiment, vraiment, vraiment m'être posé la question tout long en me disant « mais t'as rien à faire là, t'es pas à ta place ». Et en même temps, t'as envie de faire du sport. Et en même temps, va falloir que tu te débrouilles pour que t'aies ta place finalement dans ce milieu. Donc j'ai fait mon entraînement au milieu que de mecs, il y avait que des mecs. J'ai fait mon entraînement en étant hyper tiraillée et un peu obsédée par le regard des autres pendant cet entraînement-là, je me rappelle. C'était psychologiquement, c'était un peu le bazar dans ma tête. Et quand je suis sortie de la salle, je me suis dit, mais en fait, attends, Déjà là, je sens que je suis hyper fière de moi. À la fin de l'entraînement, j'ai fait un truc que j'ai jamais fait avant. Je sens que c'est ce qui me permet de marcher vers un meilleur moi possible, vers un meilleur moi, une version de moi que j'ai envie d'être. Donc, je vais pas me laisser bouffer par ces regards, alors que c'est moi qui est en train de les inventer. Et puis, je reviens demain. Et j'ai plus jamais arrêté.
Alors attends, ça c'est intéressant, je trouve. Quand tu dis que tu n'acceptais pas ton corps, tu vas peut-être un tout petit peu développer pour que certaines auditrices puissent se reconnaître dans cette histoire. Et en même temps, tu dis que, alors, tu n'acceptais pas ton corps, mais tu sentais le regard des autres. Comment tu l'as, enfin, le regard des hommes en tout cas, puisqu'il y avait que ça autour de toi. Ce n'est pas un podcast de sociologie, mais j'en profite pour poser la question parce que je suis le premier intéressé à connaître la réponse. Comment tu les as interprétés, les regards que tu sentais sur toi, comment tu les as interprétés à ce moment-là? Est-ce que c'était parce que, est-ce que tu les voyais comme une critique par rapport au bas niveau que tu avais, ou c'était plutôt un regard de prédateur alors, comment non, tu l'as interprété, voilà, c'est plus ça là.
C'était vraiment par rapport au bas niveau que j'avais. Je sais qu'en fait à ce moment-là il n'y avait pas de regard spécialement comme ça, que ce n'était qu'une projection de moi, toutes mes insécurités et tous mes complexes, clairement. Et tu sais, on dit toujours, c'est pas le jugement des autres, enfin c'est pas les autres le problème, c'est ce qu'on pense à propos des autres. Enfin, c'était vraiment ça, c'était pas le regard des autres le problème, c'était ce que je pensais à propos du regard des autres. Donc c'était vraiment, j'étais pas fit, comme on dit, j'étais pas musclée, j'étais pas à l'aise dans mes mouvements, c'était pas fluide, j'avais pas forcément d'équilibre, je me sentais un peu, tu sais, un peu mal à l'aise dans mon corps, un peu pas... très peu d'assurance dans mon corps, vraiment, je détestais mon corps à cette époque-là, donc pas d'assurance dans mes mouvements, une physiologie assez fermée. Du coup, j'étais persuadée que ça se voyait gros comme le monde à l'extérieur, j'étais persuadée que tout le monde était en train de ricaner dans mon dos. C'était pas du tout le cas, hein, mais moi, j'étais vraiment persuadée qu'on allait me prendre pour voilà, quelqu'un de moche, que j'avais rien à faire ici, que j'avais pas ma place, qu'il fallait que je dégage, etc., etc. Donc c'était pas du tout un regard de prédateur comme j'ai pu connaître bien après, quand j'étais bien dans ma peau. C'était vraiment le regard, j'étais persuadée que si on me jetait un coup d'œil, c'est parce qu'on se moquait de moi, en gros, mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là, quoi. Tu vois?
Ok, je vois. Et donc, bon, ça t'a amené à être mieux dans ta peau derrière, tu viens de le dire. Donc, aujourd'hui, tu aimes ton corps, tu l'acceptes, enfin, tu l'acceptes et tu l'aimes, hein, si je me trompe pas.
Alors, je l'aime, je l'accepte tel qu'il est. Par contre, on peut pas dire que j'accepte ou que j'aime entièrement encore ce à quoi il ressemble esthétiquement et physiquement parlant. En tout cas, je l'aime parce qu'il me permet de faire plein de choses et de vivre. Mais j'ai toujours des complexes et j'en ai toujours des tas, okay. Bien sûr.
Et cette évolution quand même, puisque tu ne l'aimais pas du tout et aujourd'hui tu l'acceptes et tu l'aimes d'une certaine manière, cette évolution, tu penses qu'elle est due, ou on va dire l'évolution de cette acceptation, elle est due aux modifications que tu as effectuées physiquement par le sport, par la musculation, ou elle est surtout psychologique parce que tu as fait un travail plus d'acceptation? Je sais que c'est difficile parce que c'est un petit peu les deux, hein, je suppose.
En fait, c'est complètement les deux. C'est complètement les deux. En fait, pour vraiment décortiquer un petit peu ça, la première partie de mes débuts dans le fitness, c'est vraiment les modifications esthétiques et physiques qui ont fait que j'ai commencé à avoir encore envie, en fait, si tu veux, d'aller encore plus loin. Et c'est pendant ces périodes-là, en fait, que je me suis persuadée que les modifications physiques me ferait me sentir mieux dans ma peau. Et c'est du coup à ce moment-là que je suis partie un petit peu en vrille et que j'ai commencé à faire des entraînements à l'extrême, à m'entraîner 4-5 heures par jour, à faire des sèches de compétitrice alors que je n'avais pas l'intention de monter sur scène. C'est du coup là que j'ai développé des troubles du comportement alimentaire, etc. Parce que je me suis persuadée que les modifications physiques, vu qu'elles me faisaient du bien un peu à mon ego à certains aspects, j'étais persuadée que c'est ça, en fait, si je poussais le bouchon encore plus loin, qu'elle allait me rendre vraiment heureuse et parfaitement bien dans ma peau. Et moi, je m'étais persuadée, je me suis dit, mais le jour où j'ai les tablettes de chocolat, je vais pouvoir me balader en maillot de bain tranquillement sur la plage et je vais être trop bien, etc. Et le jour où j'ai eu ces tablettes de chocolat là, et ben j'étais toujours pas capable de me balader en maillot de bain sur la plage, j'étais toujours mal dans ma peau, c'était encore pire, je mettais que des vêtements larges, etc. Alors que j'avais le corps que je voulais avoir quelques mois plus tôt, tu vois. Et du coup, dans cette deuxième phase, j'ai entamé plutôt le travail psychologique en me disant, ok, attends, ça veut dire que uniquement les résultats physiques ne suffisent pas. Ça veut dire qu'il faut aussi que je fasse tout le travail dans ma tête, de me dire, ok, j'ai pas besoin d'être aussi dure et exigeante avec moi physiquement. Il faut que je continue ces entraînements et que je continue à améliorer mon corps pour tendre vers une version de moi qui me plaît plus. Mais il faut surtout que je fasse cette phase d'acceptation psychologique parce qu'en fait, c'est pas juste la perte de poids qui fait qu'on est mieux dans notre peau, c'est pas juste des abdos, c'est pas juste des fesses plus bombées, c'est faux, c'est un tout, c'est vraiment un tout.
C'est marrant d'ailleurs parce que j'ai l'impression qu'en salle, plus... moi je vais prendre plutôt les gars parce que je connais pas trop les filles, tu vois, dans ce milieu-là, mais quand tu vas en salle de sport, j'ai l'impression que... Bon, alors, il y a des exceptions, hein, mais de temps en temps, ou très souvent, plus le gars est musclé, plus t'as l'impression qu'il va se couvrir, ou alors à développer une espèce de pudeur, comme si au final, l'objectif reculait toujours, et on voit souvent les bodybuilders qui, ou même des mecs qui sont assez balèzes, avant de congestionner, avant d'avoir la sensation de renvoyer quelque chose, ils sont toujours en pull. Alors, je sais pas après si c'est pour s'échauffer aussi, mais bon.
Alors peut-être, je t'avoue que j'ai pas assez de connaissances pour le coup.
Non,
je suis assez d'accord avec toi. En fait, il y a une espèce d'ambivalence, même pour aller plus loin, je pense qu'il y a une espèce de dualité dans toutes les personnes qui ont envie de pousser un peu à l'extrême leur physique. Donc quand je dis extrême, c'est relatif parce que c'est assez subjectif, mais qui ont envie vraiment de pousser le physique très loin, que ce soit dans le bodybuilding, que ce soit dans la perte de poids, dans plein de choses, on est habité forcément par une dualité de... Je fais tout en fait pour pouvoir moi m'accepter moi, mais je sais qu'en étant comme ça, je sais que j'attire encore plus les regards, les critiques, etc. Et ça, je l'accepte pas. Donc, si tu veux, c'est une espèce de contradiction intérieure aussi, tu vois. Donc, cette envie de je veux plus parce que je suis persuadée que c'est ça qui va me mener au bonheur, et en même temps, ce plus, ben, je l'accepte pas parce que je sais que je suis critiquée, que je suis jugée. Moi, ça me plaît pas. J'ai peur de pas être aimée. J'ai peur d'être rejetée comme je suis. Donc, il y a vraiment cette dualité et ça dans beaucoup de personnes. Et moi, je le vivais à l'époque où j'étais vraiment sèche aussi. J'étais pas du tout bodybuildeuse, mais tu vois, je le vivais quand même un peu. Donc ouais, je comprends vraiment ça. Et de toute manière, je pense aussi peu importe le niveau auquel on fait du sport, on le fait aussi pour combler un besoin, quel qu'il soit. Parfois, c'est un besoin de se dépenser, de se défouler, de gérer nos émotions. Et parfois, c'est aussi le besoin d'être aimé par plus de personnes, le besoin de plaire plus, le besoin de faire l'unanimité, le besoin de se cacher, forcément.
Tu avais fait une vidéo il y a quelque temps sur justement l'acceptation de son d'essayer de trouver le bon alignement entre s'accepter comme on est et en même temps, et là je pense plus de la part des femmes, pour le coup je trouve que c'est peut-être un combat, une considération qui est un peu plus la vôtre que la nôtre, même si évidemment c'est le cas. Donc, de trouver le bon équilibre entre l'acceptation de soi et en même temps ne pas se résigner et ne pas être le laisser aller. C'est-à-dire, je suis comme je suis, je me laisse aller, ou alors l'extrême opposé, je ne m'accepte pas, j'ai des complexes partout. Et alors, c'est quoi ? On n'agit pas. Et tu faisais une vidéo qui était intéressante sur ça. Est-ce que tu pourrais peut-être résumer, pour ceux qui ne l'ont pas vu, point de vue sur ça ?
Bien sûr, en fait, tout est parti d'une discussion que j'ai eue avec ma maman, qui est crossfiteuse. Ma mère est crossfiteuse. Et on est une famille de sportifs. Mon père, il a fait, je crois, une dizaine d'Ironman. Ma mère est crossfiteuse, ma sœur aussi. Enfin bref, on est assez sportifs dans la famille. Et tu vois, ma mère, je sais qu'elle adore le crossfit, mais je sais aussi qu'elle s'entraîne beaucoup de fois aussi parce qu'elle veut perdre plus de poids, parce qu'elle sait qu'elle s'aime pas comme elle est, parce qu'elle se trouve trop grasse, etc., etc., tu vois. Et plein de fois, en fait, je me rappelle lui avoir dit, mais tu sais, est-ce que tu te rends compte de comme tu es à ton âge et comme t'es belle et que c'est aussi la nature qui fait que c'est comme ça et ça n'enlève rien à ta féminité, etc. Il va falloir que tu finisses par accepter comme tu es, que t'acceptes, que t'arrêtes de vouer un culte à un corps que de toute façon tu n'atteindras pas, sinon tu seras tout le temps mal dans ta peau. Et elle m'a dit, oui, mais si j'accepte mon physique, ça veut dire qu'en fait je vais arrêter de faire des efforts, je vais plus m'entraîner, je vais baisser les bras. En gros, s'accepter physiquement pour elle, c'était baisser les bras. Et en fait, ça m'a choquée à un point où je me suis dit, donc ça veut dire qu'on ne doit vouloir changer que si on souffre. Ça veut dire qu'on doit vouloir, on doit vouloir transformer son corps uniquement que si on souffre et qu'on le déteste. C'est une trop mauvaise raison de vouloir changer son corps. C'est une trop mauvaise raison de vouloir faire du sport et de vouloir se transformer.
Et est-ce que c'est pas également la meilleure raison aussi ?
La meilleure raison pour commencer, mais je pense pas que ce soit la meilleure raison pour continuer. Je pense que c'est la, la, La raison pour continuer, pour commencer, en fait, la plus importante, parce qu'on s'appuie sur une souffrance et que c'est un levier émotionnel qui est énorme. Mais si on veut vraiment bâtir une relation saine avec le sport, kiffer le sport pour ce qu'il est, pour sa pratique, pour aussi aimer notre corps, pour le partage, pour tout ce qu'on ressent quand on fait du sport et pour tout, en fait, que ce soit physique, intérieur, etc., il faut parvenir à développer une autre motivation que celle de la souffrance ou de « je refuse ce que j'ai actuellement, je n'aime pas ce que j'ai, donc moi je veux autre chose ». C'est un peu comme quand on crée du changement, soit on est motivé par le coup de bâton, soit on est motivé par la carotte. Et en fait, toutes les personnes qui sont motivées par le coup de bâton, elles sont motivées parce qu'elles souffrent et en fait, elles sont punies si elles ne changent pas. Donc c'est typiquement ce qu'on fait quand on commence le sport parce qu'on se sent mal dans notre peau. Et les personnes en réalité qui avancent le plus vite et qui vont le plus loin dans la vie, c'est les personnes qui avancent à la carotte parce qu'elles avancent pour un truc qu'elles ont envie d'avoir. Donc ces personnes qui avancent à la carotte, c'est dans le sport, c'est en gros, ok, au début c'était le coup de bâton qui me motivait, en fait je souffrais, je voulais changer mon corps, donc j'ai commencé le sport. Mais en fait maintenant je le fais plus parce que je déteste mon corps en fait je le déteste pas, je fais du sport parce que je veux encore mieux, ou parce que j'ai envie de me sentir encore plus performante, ou parce que j'adore ça, ou parce que ouais, bah physiquement j'ai envie d'avoir encore mieux, etc., tu vois. Donc c'est, j'aime bien expliquer avec le bâton et la carotte, parce que vraiment avancer à la carotte à long terme, c'est beaucoup plus serein, beaucoup plus sain, et ça permet aussi d'établir un meilleur rapport et à son corps et à l'alimentation et au sport. Et je pense que c'est vraiment important, surtout quand on est une femme, enfin même pour un homme, hein.
Et c'est ce que tu reprocherais par exemple au contexte actuel là, les réseaux sociaux, Instagram, je pense surtout à Instagram, YouTube, mais surtout Instagram qui est le réseau le plus... influençant, on va dire.
Ouais.
Toi, je sais que tu n'es pas du tout une influenceuse, que c'est pas du tout ton créneau. Mmh. Et alors, justement, ça me permet de rebondir sur ça, là, tout ce que tu dis. Tu le reprocherais, tout ça, toi, au réseau, aux femmes qui provoquent des attentes inespérées et qui, en fait, propagent ce coup de bâton un petit peu partout à leurs followers?
Non, moi je le reprocherai pas du tout parce que je pense que on est toujours responsable de nos émotions et de nos choix et on peut être influencé et sur mes réseaux sociaux aussi, hein, moi je vois des tas de nanas, des mannequins, etc. C'est pas pour autant que ça crée de la souffrance en moi parce que j'ai conscience que je suis responsable de mes attentes. Donc je pense pas qu'on peut leur reprocher parce que je pense qu'en fait si elles le font, c'est qu'elles sont persuadées que c'est une bonne chose. Tu vois, c'est qu'elles sont persuadées que ça va inspirer, etc. Et de toute façon, on a toujours deux choix dans la vie. Soit s'inspirer de des personnes qui ont pas ce qu'on, enfin qui ont autre chose que ce qu'on a, soit en gros culpabiliser ou envier, tu vois. Si t'es inspiré, ça veut dire que tu sais que c'est atteignable, que tu peux le faire. Si t'es pas inspiré, c'est que ça, tu sais que ça t'est pas atteignable, donc tu développes et de la culpabilité et de la jalousie et de l'envie. Bah dans ce cas-là, tu te désabonnes, en fait, hein, tout simplement. Donc, j'ai pas envie de blâmer qui que ce soit. Je trouve vraiment pas que ce soit le cas. Et je me bats un petit peu contre le fait qu'il y a vachement de choses aujourd'hui qui sont diffusées sur les réseaux sociaux de une telle, elle fait que de se montrer en maillot de bain alors qu'elle est trop bien foutue, alors elle culpabilise tout le monde. Mais en fait, cette personne ne culpabilise personne, en fait. Enfin, elle est telle qu'elle est et tu décides de culpabiliser parce que tu penses que du coup c'est elle la norme, mais c'est pas le cas, tu vois, elle va pas se cacher parce qu'elle a un corps qui toi te plaît, tu vois ce que je veux dire. Donc si tu veux, c'est non, vraiment je pense qu'il faut blâmer personne, je pense qu'il faut juste faire un recentrage sur soi et qu'avec les réseaux sociaux et surtout Instagram comme tu dis, beaucoup de personnes se perdent, beaucoup de personnes, et même moi hein, ça a été mon cas, pensent que les physiques qu'on voit sur les réseaux c'est la norme, que c'est madame tout le monde. Il faut arrêter de croire que c'est vrai aussi, il faut se balader un petit peu plus dans la rue, aller à la piscine municipale et observer qui est madame tout le monde. C'est pas tous les mannequins auxquels on s'abonne parce qu'elles font la publicité de vêtements qu'on adore ou des bijoux qu'on aime ou des marques de bikini ou ce que tu veux, et forcément ben, les marques elles prennent que des nanas qui correspondent un peu aux critères actuels de la société, quoi. Faut juste observer un peu plus ce qui se passe dans la rue et à la piscine.
Effectivement, ce qu'on voit sur Instagram n'est pas représentatif, n'est pas un échantillon représentatif de la population en général. Et comme tu le dis, il suffit de sortir, d'aller à la piscine ou même d'aller dans sa propre salle de sport, dans son propre gym, pour voir qu'il n'y a pas que des mecs ultra balèzes ou des femmes ultra gaulées. Je renvoie aussi à l'épisode que j'avais fait avec Jérôme Quadrado, où on avait parlé de complexe d'Adonis, on avait parlé de l'image du corps, l'image de soi, ce que ça renvoyait. Un des plus longs épisodes du podcast, il y a quelques, quelques semaines, quelques mois qu'il est sorti maintenant, très intéressant. C'est un psychologue, donc si les gens ont envie, n'ont pas encore écouté cet épisode-là, je le conseille, c'était vraiment très intéressant. On va un petit peu basculer, parce que, alors c'est marrant, parce qu'il y a un an et demi, deux ans, j'ai voulu, moi, faire un peu de natation. Enfin, j'ai toujours aimé la natation, mais j'avais envie de trouver une activité un peu plus cardio par rapport à mes séances de sport classique, de musculation classique. Et alors, bon, comme tout bon internaute, j'ai tapé sur Google, j'ai tapé sur YouTube pour voir qu'est-ce qui se proposait pour essayer d'améliorer ma technique en natation. Je suis tombé sur des vidéos à toi, justement, tu vois. Et alors, est-ce que tu pratiques toujours la natation ? C'est quoi ton expérience ? Et ensuite, j'aurai deux, trois petites questions sur ça.
Alors, je ne t'entends plus du tout.
Ah, je t'ai perdu, je crois.
Ouais, je t'ai perdu aussi pendant un moment. Est-ce que tu m'entends ?
Là, je t'entends, ouais.
Écoute, il y avait un gros blanc, donc j'en étais à, en gros, que tu as cherché comme tout internaute, voilà, quelques des informations.
Ok, bah, alors je la refais, ouais, c'est ça, je regardais sur YouTube ce qui se faisait pour que je puisse améliorer ma technique sur le crawl, sur la brasse, tu vois. Et je suis tombé sur tes vidéos, enfin, une de tes vidéos, je crois que tu en as sorti une petite poignée sur la natation quand tu avais repris, justement, et je te demandais quelle était ton expérience, si tu faisais toujours de la natation aujourd'hui, et ensuite j'ai quelques interrogations derrière.
Oui, je fais toujours de la natation. D'ailleurs, c'est prévu que j'aille nager demain. J'ai pas nagé depuis plusieurs mois parce que, bon, avec les derniers événements, voilà, j'ai pas pu nager, bien sûr. Mais oui, je fais toujours de la natation. Je suis loin d'être une excellente nageuse pro, mais j'aime beaucoup l'élément eau. C'est un truc vraiment dans lequel je me retrouve, je m'éclate, qui m'apaise. Et les séances de natation, je crois que c'est les séances de sport pendant lesquelles j'arrive le plus à mettre mon cerveau en mode off. Donc, c'est entre autres pour ça que je continue. Et c'est un des seuls sports que je fais pour non pas pour l'esthétique, mais vraiment pour le ressenti. Donc, ouais, je nage toujours.
Ok, alors bon, je sais pas si tu sais, moi je suis ostéopathe ici là à Montréal, et c'est vrai que ça m'arrive de temps en temps de recommander de faire de la natation pour des personnes qui en auraient besoin. On sait que c'est un sport qui est très recommandé, qui est pas forcément aimé par tout le monde, mais en tout cas qui a une réputation d'améliorer la musculature du dos, d'améliorer la symétrie, l'équilibre, enfin la symétrie, plus dans l'idée équilibre et posture. Et est-ce que toi, tu as remarqué, depuis que tu en as fait, ou peut-être depuis que tu en as fait plus intensément, une amélioration sur ta posture ? Est-ce que ça a prévenu certaines douleurs que tu avais dans le dos ? C'est juste un retour d'expérience purement personnel.
Ouais, complètement. Ben, en fait, c'est super intéressant parce que c'est exactement dans ce cadre-là que la natation m'a été conseillée quand j'étais petite. À l'âge de 8 ans, bref, il y a vraiment un spondylolisthésis qui m'a été trouvé dans le dos avec un début de scoliose. Donc, on m'a dit, Chloé, arrête la gymnastique, etc. Du coup, je me suis mise à la natation synchronisée parce que tout ce qui était dans l'eau, ben, évidemment, moins d'impact, plus de douleur au dos, enfin bref, donc le bonheur. Donc c'est vraiment pour cette raison que j'ai commencé. Du coup, beaucoup de mes douleurs de dos déjà se sont vraiment amenuisées quand je faisais de la natation synchronisée à niveau assez intense. Ensuite, j'ai arrêté la natation après mes études sup pendant bien 6 ans. Et boulot de commercial, donc tout le temps dans la voiture, mal de dos qui revient. Et effectivement, depuis que j'ai repris, je pense que ça va faire 3 ans, beaucoup moins de maux de dos, vraiment beaucoup moins de maux de dos. La posture, je pourrais pas trop dire qu'elle a changé parce que je crois que c'est le sport de manière générale qui a changé ça. Par contre, je trouve vraiment que mon dos est beaucoup plus souple. J'ai beaucoup moins de tension et j'ai plus de nœuds comme j'avais avant dans le dos. Tu sais, des gros blocages, des grosses contractures à cause de postures tenues longtemps ou même à cause de la musculation, etc. Vraiment la natation, ça m'a assoupli, je dirais, le dos, les muscles même.
Juste pour rappeler, le spondylolisthésis, donc, qui est un trouble au niveau d'une vertèbre, en fait, il va y avoir un glissement d'une vertèbre. Soit vers, en général, c'est vraiment les dernières vertèbres lombaires, que ce soit L4, L5, très souvent L5, qui va soit glisser en avant, soit glisser en arrière, mais le plus souvent, c'est en avant, il me semble. Ça t'a été diagnostiqué par radio.
Je crois que c'était un IRM. Je crois que c'était IRM, un IRM.
Ouais.
Mmh, okay. Ouais. Ça a été un IRM et c'est une douleur qui revient tout le temps hein, dans ma vie. Donc c'est vrai que je fais beaucoup de chiro et d'ostéo pour ça. Et les deux pratiques sportives qui me soulagent le plus, et ce sur du long terme, c'est le yoga et la natation. Vraiment, c'est les deux pratiques. Si je suis régulière dans ma pratique du yoga et de la natation, je peux ne pas avoir mal du tout pendant plusieurs semaines, voire mois. Donc,
okay. Voilà. Est-ce que tu as passé, repassé un IRM ou refait des examens récemment pour voir s'il y avait une évolution, justement?
Oui, alors je l'ai fait. Il n'y a pas d'évolution, il ne bouge pas. Il n'a pas bougé. Ouais. Par contre, on m'a, quand j'étais en Australie, j'ai eu des nouveaux maux de dos que je n'avais jamais eu en haut du dos. Et il y a un truc qui a évolué au niveau de ma colonne vertébrale. J'ai une scoliose qui est prononcée pour le coup, qui ne l'était pas du tout avant. Et en un an, ma colonne a pas mal bougé. Donc je pense que c'est aussi dû à, tu vois, par exemple, aux prothèses mammaires. Je sais que c'est des ostéopathes et des chiros qui m'ont dit que ça pouvait créer des soucis de posture. Donc voilà, je suis toujours un peu sur le cas, tu vois, toujours un peu sur le dossier quand même, en train d'essayer de trouver des solutions. Ouais. Si je viens à Montréal, c'est vrai que je viens de te voir, Jérôme. Ouais.
Ben oui, bien sûr.
C'est prévu en plus, donc...
Ouais, ben quand les frontières vont rouvrir, parce que c'est pas encore le cas, ouais, actuellement... Ouais. Je ne sais pas quand sortira, à quelle date précise sortira ce podcast, mais on sera encore en été. Oui. Donc oui, bah, quand les frontières sont ouvertes, si tu viens faire un tour ici en vacances, on va pouvoir regarder ça.
Ça marche.
Et alors, bon, tu dis que tu vas voir des ostéos, des chiros, c'est bien parce que ça me fait faire les transitions automatiquement. Et bien alors, qu'est-ce que tu trouves dans ces deux pratiques? Et je sais que je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'aimerais avoir un chiro sur ce podcast pour discuter des différences ostéo-chiro et vraiment aller un peu à la pêche aux informations directement sur ça. Donc je compte le faire, il faut que je trouve, enfin faut que j'invite un chiro pour discuter de tout ça. Oui. Mais toi, d'un point de vue patiente, qu'est-ce que tu trouves dans l'un ou l'autre? Est-ce qu'il y a des différences? Qu'est-ce qui te soulage? Quelles sont les approches que t'aimes bien, quoi, entre ostéo, kiné, chiro?
Alors, les deux choses vraiment que j'aime chez l'un, chez l'autre, en fait, c'est qu'avec l'ostéo, j'aime beaucoup en fait l'approche par le mouvement. La posture, chaque posture en fonction des mouvements, de l'hygiène de vie, du rythme de vie qu'on va avoir, de la manière dont on se tient, etc. Et c'est vraiment en fait chez les ostéos, moi, que je m'y retrouve, donc j'allais tout le temps voir le même là. C'est vraiment chez mon ostéo que je retrouvais ça, que ce soit des mouvements en fait à faire ou des manières de se tenir ou comment est-ce que on va aller travailler en fonction de mon quotidien. Et ça, j'aimais vraiment beaucoup. Et pour le coup, plutôt pour le chiro, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'était plutôt l'aspect émotionnel où, tu vois, il m'expliquait vraiment, mon chiro, les émotions liées aux douleurs que j'avais en fonction de mes vertèbres, où est-ce que c'était stocké, en fonction du poids, en fonction du stress, de la charge mentale, etc. À quoi étaient liées mes douleurs. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas du tout abordé le mouvement ou la posture. On a vraiment, c'était plus l'aspect émotionnel, et j'avais l'impression qu'en décortiquant un petit peu mes vertèbres, etc., il a tout de suite su en fait établir un profil émotionnel, un profil psychologique que j'avais, et me donner des exercices à faire. Tu vois, de reconnexion au moment présent. Et okay. Alors que l'ostéo, il m'a vraiment plutôt donné des conseils en termes de mouvement, en termes de comment je vais bouger, comment je vais me tenir. C'est lui, voilà, le premier qui m'a parlé des prothèses mammaires. Enfin, tu vois, de plein de choses comme ça, en fait. Donc, je trouve que c'est hyper complémentaire.
Je ne savais pas que tu avais des prothèses mammaires. T'en avais parlé sur ta chaîne ou sur
un podcast? J'en ai parlé dans des podcasts, j'en ai même parlé dans la vidéo où je parle de la transformation de son corps. Ouais.
Et alors ça, tu le remets dans quel contexte par rapport à ce qu'on a discuté au début? Je fais un peu un switch des sujets, mais sur l'acceptation et en même temps sur agir là où tu as des complexes. Où c'est que tu le situes cette décision de vouloir te poser une prothèse mammaire?
Alors, en fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que suite aux sèches drastiques que j'ai fait, ma poitrine n'est jamais revenue, hein, elle est partie, puis elle n'est jamais revenue.
Elle n'est jamais revenue, d'accord.
Non, elle n'est jamais revenue, pourtant j'ai repris beaucoup de gras, j'ai repris presque 10 kilos, mais c'est jamais revenu. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais cette opération de prothèse mammaire, etc.? Et je savais, en fait, vu mon passif avec la sèche, justement, que la première étape, ça allait être plutôt d'accepter, de me dire, OK, est-ce que tu le fais pour toi? Est-ce que tu le fais pour les autres? Est-ce que c'est par rapport à ta sensualité, ta féminité, ta sexualité? Bref, je me suis posé pas mal de questions. Et j'ai mis presque 2 ans, en fait, avant de le faire, le temps de savoir accepter et aimer mon corps tel qu'il était. Et une fois que ce complexe ne me bouffait plus, c'est ça qui est assez dingue, je sais que beaucoup de femmes le font parce que c'est un complexe qui les bouffe. Moi, une fois que ce complexe ne me bouffait plus, j'ai mis ces prothèses mammaires, si tu veux, pour me dire, OK, là, je suis pleinement comme j'ai envie d'être et un petit peu comme j'étais avant, en fait. Donc, j'ai fait ça. Et en fait, c'est derrière que j'ai dû faire le plus gros travail d'acceptation de mon corps parce qu'en fait, ben, tout de suite, j'ai eu des formes qu'avant j'avais pas, donc j'étais aussi plus visible. Il y a eu le regard des hommes que j'ai dû gérer à ce niveau-là que je n'avais jamais fait. Donc ça a été pas facile.
En fait, tu t'y attendais pas ça ?
Pas du tout. Ben non, parce qu'en fait, toutes les femmes nous parlent d'implants mammaires comme si c'est bon. Ben du coup, elles se sentent enfin super féminines et sexy et belles, etc. Mais putain, c'est pas facile à gérer ça. C'est faux quand on pense que les prothèses mammaires c'est bon, c'est la solution de facilité et qu'on se sent super bien derrière. Non, moi, depuis que je les ai mises, ça a réglé. Disons que ça m'a aidée dans cette démarche d'acceptation comme je suis, mais par contre j'étais pas prête à ce qu'on me regarde plus et j'étais pas prête non plus à me faire juger par d'autres femmes qui bah du coup forcément nous jugent de superficielles, etc. Non, il y a un travail d'acceptation de notre corps qui est que on nous prévient pas de ça en fait. On est persuadé qu'on attend ça comme le Graal alors qu'en réalité c'est pas comme ça que ça se passe quoi. Et que cette partie de féminité, ce corps étranger, tout ça, faut savoir l'accepter. Donc depuis j'ai fait quand même un bon chemin, j'en ai même parlé dans un post il n'y a pas longtemps où je parlais du no-bra, tu sais, le fait de ne pas mettre de soutien-gorge, et on m'a beaucoup même fait la réflexion, par exemple, c'est facile pour toi vu que tu as des prothèses mammaires. Ils disaient, mais non, au contraire, en fait, parce que justement, ça se voit encore plus, et moi, je le vis super mal que ça se voit encore plus, parce que c'est pour moi que je l'ai fait, pas pour qu'on me regarde. Donc, si tu veux, c'est un petit peu tout ce travail-là, et aujourd'hui, je sais que j'en suis arrivée à un point où... voilà, je suis en paix avec ça, je suis enfin tranquille, j'ai enfin accepté aussi ça. Mais je sais que, tu vois, dans 10 ans, je sais que je me les ferai enlever, quoi. Je le sais déjà parce que je suis en train de faire la paix petit à petit avec tout ce que j'avais pas réglé avant, je crois. Donc, voilà. Et puis, il y a trop d'inconvénients, même au niveau posturaux. Je te dis, j'en ai parlé avec mon ostéopathe ouais. qui me disait, on peut pas être sûr à 100% que ça vient de là, mais il y a des chances quand même que ça ait modifié un peu ta posture, etc. Donc voilà.
T'as commencé, si je me trompe, ta chaîne YouTube en parlant surtout de musculation. Aujourd'hui, on voit tout le chemin que t'as parcouru. On voit que tu as une certaine popularité, que ce soit sur ta chaîne, que ce soit sur les réseaux. Tu parles de sujets à une audience plus large. On est beaucoup moins sur le fitness, sur la musculation, sur l'hypertrophie musculaire pour les femmes. J'aimerais comprendre. Comment tu es passé ? C'est venu progressivement, j'imagine, ou peut-être même d'un coup, tu t'es dit, tiens, j'en ai marre de parler de musculation, je veux pas rester là-dedans, je veux pas m'enfermer sur ce truc. Pour quelles raisons ? Est-ce qu'il y a des raisons particulières qui ont fait que tu as voulu élargir les sujets et peut-être être beaucoup plus dans dit grossièrement le développement personnel, mais l'amélioration de sa vie de manière plus saine, plus sereine.
Ouais, bien sûr, bien sûr, ouais. Bien sûr, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que en fait, le fitness, ok, c'est cool, c'est un truc. Le sport, de manière générale, j'ai toujours, j'ai été pas mal sportive. C'est vraiment une partie de moi, mais c'est justement, ce n'est que une partie de moi. Ce n'est qu'une petite partie de moi, et j'avais un très gros décalage entre ce que je montrais, donc exclusivement du fitness et de la nutrition, et ce que moi j'étais réellement. Je suis une personne qui est extrêmement sensible, qui est intéressée par l'humain, par la vie, qui a un côté artiste, etc. Et donc, j'étais très frustrée de ne pas exprimer ça, de ne pas montrer entièrement qui j'étais et de devoir montrer qu'une petite part de moi. Donc ça, c'est vrai que je le vivais pas bien. Il y a eu un vrai désalignement après, quand je suis partie vivre en Australie, où je me suis dit, mais en fait, stop, enfin... Ça me saoule de devoir me cantonner à une petite étiquette, en fait, et les gens pensent et même moi, je finis par penser qu'en fait, ça me représente, alors que c'est faux. Enfin, ça représente une toute petite partie de moi, j'ai tellement plus envie de donner et tellement plus à donner et je suis tellement passionnée par d'autres choses encore plus, quoi, en fait, que voilà, j'ai plus envie de m'enfermer là-dedans. Et puis, il y a aussi une réalité, alors je sais que ça va pas forcément plaire à tout le monde ce que je vais dire, mais c'est que le milieu du fitness aussi sur les réseaux sociaux, c'est super cool, ça motive, ça inspire les gens et ça fait du bien aux gens et je pense qu'on en a besoin. Mais, moi, mon ressenti, et ça ne tient qu'à moi, c'est aussi... en tout cas, c'est celui que j'avais à l'époque, que ça ne vole pas haut. Ça ne vole pas vraiment haut. Et c'est, je suis désolée de dire ça vraiment, mais je le pense en fait. Donc, il faut que je le dise. Ça ne vole pas haut. Et c'est très... je trouve que c'est trop superficiel. Ça ne me plaisait pas. Et si tu veux, moi, au bout d'un moment, en fait, ça me frustrait énormément qu'on me pose tout le temps les mêmes questions. Et du coup, comment tu fais pour aller fesses comme ceci et pour les abdos et machin? Enfin, en fait, ça, la vie, ça tient pas qu'à ça, quoi. Tu vois, donc voilà, c'était un peu trop superficiel pour les réseaux. Enfin, sur les réseaux, c'est voilà. Je m'y retrouvais pas, ça volait pas très haut. Le milieu est franchement, le milieu influenceur fitness, c'est cool, mais c'est aussi, il y a plein de trucs pas cool qui volent vraiment pas haut, encore une fois. Donc non, en fait, moi, j'appartiens pas à ça, donc j'avais envie de plus trouver ma voix, de plus m'exprimer et me retrouver dans ce que je faisais, m'adresser à des gens, en fait, qui pourraient même être mes amis en dehors des réseaux sociaux, pas m'adresser à des gens qui sont juste intéressés parce que je ressemble à un bout de viande ou que voilà. J'avais envie d'élever un peu le niveau des conversations, des débats et des sujets abordés, en fait. Voilà.
Question sans jugement, est-ce que tu penses que ça vaut le... plus haut, c'est difficile, hein. C'est, encore une fois, c'est juste ton avis personnel, et peut-être que tu auras soit un souvenir, soit une anecdote par rapport à ça. Est-ce que tu penses que ça vole plus haut dans le fitness masculin que dans le fitness féminin, ou pareil, ou c'est pire pour les hommes?
Franchement, quand je vois ce qui se passe dans le fitness masculin, putain, ça vole pas haut non plus. en tout cas, en France, enfin, moi, je sais que je suis amie avec un YouTuber assez connu, tu vois, dans la musculation, etc. En fait, j'ai l'impression que chez les mecs, on passe notre temps à parler de qui est dopé, qui l'est pas, alors qu'on s'en fout. Et chez les filles, on passe notre temps à se tirer dans les pattes. Et à parler de fessiers bombés et ventre plat. Donc si tu veux, voilà, moi je crois que c'était à l'époque, j'avais un peu ce ressenti-là. Alors qu'en réalité, c'est juste ce qui est mis en lumière, mais la majorité des sportifs sont des gens qui ont un mental hyper intéressant. C'est des gens qui sont super inspirants. D'ailleurs, tous les grands sportifs, ils ont développé des psychologies, ils sont hyper inspirants. Donc voilà, si tu veux, ça c'est pas très représentatif de ce qu'est vraiment le sport, je trouve, en fait. Parce que je trouve que les sportifs sont super inspirants, tu vois. Et la preuve, tu vois, avec ce podcast-là, on parle de sport, mais on parle de trucs super enrichissants, quoi. Tu vois.
On essaie d'aller chercher un petit peu plus loin que les trois exercices pour ceci, pour cela. mais c'est intéressant. Et en même temps, effectivement, les grands sportifs, les grands athlètes ou même les grands entrepreneurs, d'une manière générale, ont beaucoup plus à dire ou à partager que ce que parfois on voit sur les réseaux ou sur leur communication. Après, il y a aussi la question du marché, un peu de ce qui est demandé, de tous les leviers psychologiques. C'est vrai que une vidéo sur comment se sentir mieux dans son corps fera beaucoup moins de vues que les trois erreurs à bannir pour se développer un fessier d'anthologie. Non, mais c'est un peu les leviers psychos, tu vois.
Complètement. Non, mais c'est pour ça, si tu veux. On peut pas dire toutes les fitness girls ou quoi, ça vole pas haut. Non, c'est faux, en fait. Je suis aussi amie avec un couple qui cartonne dans le fitness. C'est des gens qui sont super intelligents, qui ont des magnifiques valeurs, mais ils connaissent hyper bien leur marché, ils savent super bien à qui ils s'adressent, à Madame Tout-le-Monde. Donc voilà, c'est que du contenu comme ça qui fonctionne hyper bien. Donc en effet, tu vois. Mais voilà, moi, j'avais envie que les interactions entre notre audience, notre communauté et mon équipe et moi soient un peu plus alignées avec nous, quoi.
Et je crois que je vois de qui tu parles quand tu parles de couple. On va pas les nommer là, parce que si jamais c'est pas ça, mais la fille en question, je suis justement en contact avec elle pour échanger au cours d'un épisode du podcast. Cool. Et alors justement, moi, j'essaierai de lui poser des questions beaucoup plus fitness. Technique, on va dire, ouais. Puisque c'est vraiment son créneau. T'as pas eu du mal, justement, quand t'as voulu faire cette transition de ne pas te cantonner au physique uniquement, t'as pas eu des difficultés à faire passer un message, t'as pas perdu des gens au passage, comment t'as géré, souvent, c'est ce qu'on voit, hein, quand on essaye soit d'élargir le discours, soit de dire les choses un petit peu différemment, on a du mal à garder les gens qui étaient là, en fait, pour se développer un corps, pour se développer des fessiers ou un bas du corps.
Si, honnêtement, j'en ai perdu. J'ai perdu pas mal de monde. Il y a eu une grosse vague de critiques, de pertes, d'incompréhension. Il y en a une. Mais je m'en fichais, j'étais prête. La décision était mûrie. C'était mon bonheur avant tout. Là, j'en souffrais. Donc, si tu veux, là, c'était le coup de bâton, tu vois. J'étais vraiment en train de vivre une souffrance. Donc, la question, elle était... J'allais dire, la question est vite répondue. je ne ferai pas cette blague. En gros, si tu veux, oui, c'était vraiment logique. Donc, j'étais prête à ce que des gens s'en aillent, à me faire critiquer, etc. C'était pas grave.
T'en as eu des critiques? Mais,
ouais, j'en ai eu, bien sûr. Je me suis fait traiter de bobo intello, de hippie perché. Je me suis fait beaucoup critiquer comme si j'étais une nana qui surfait sur la tendance parce que le fitness avant c'était à la mode. Là, le développement personnel arrive en France, donc c'est à la mode. Bien sûr, mais bon. C'est pas grave, ça comptait pas. Ce qui compte, c'est que quand on est aligné, on fait les choses avec le cœur, ça se ressent, on arrive à donner encore plus aux gens, ça se sent quand c'est authentique, et on excelle quand on est authentique et quand on est passionné, donc je trouve que c'est ce qui est le plus important. Donc si tu veux, il y a eu cette vague un peu de pertes, de critiques, etc. Et d'un autre côté, j'ai été vraiment très très surprise de voir à quel point il y a beaucoup de gens qui sont restés. Parce que, en fait, j'ai pas commencé en disant... allez les gars, on va parler de développement personnel. À aucun moment j'ai prononcé le mot développement personnel. J'ai commencé simplement en fait à parler des difficultés que j'avais rencontrées, de mon rapport à mon corps, avec mes parents, avec le travail, avec la société, d'un peu le parcours que j'avais, de mes difficultés et de comment j'y faisais face. Et en fait, c'est pas parce que tu fais du sport que t'es pas concerné par les autres problèmes de la vie. Donc, il y a plein de sportifs qui étaient là, qui me suivaient à la base, peut-être pour le ventre plat ou quoi que ce soit, qui se sont dit, mais attends, Chloé, elle est en train de parler de jalousie au sein du couple. Moi, je vis complètement ça. Qu'est-ce qu'elle a à dire là-dessus? Ça m'intéresse. Et donc, si tu veux, il y a plein de gens qui sont restés parce qu'en fait, ils étaient concernés par ces mêmes problèmes. Donc, ça s'est fait comme ça, tout doucement, en douceur. Il y en a plein que j'ai réussi à intéresser vraiment au développement personnel, pour être assez, grossier, entre guillemets. Et qui sont restés pour ça, et voilà. Donc encore une fois, je pense que j'ai juste arrêté de me cantonner à un sujet, à une étiquette, une niche, et j'ai juste commencé à parler un peu plus de ce que j'avais dans les tripes, en fait.
Ça serait quoi, en priorité, à faire pour justement améliorer sa vie d'une manière générale? Quels seraient tes conseils prioritaires pour, comme tu le dis, c'est le nom de ton podcast, il me semble, et un peu ton slogan, pour une vie plus saine et plus sereine?
Pour moi, la chose numéro un, c'est d'arrêter de se dire, c'est d'arrêter de constater la situation. Par exemple, je vais mal, ça va pas du tout, et de se dire, mais pourquoi ça va pas? Mais pourquoi moi ça m'arrive? Et pourquoi j'ai ceci? Et pourquoi j'ai cela? Donc, ça, c'est valable dans n'importe quel domaine de vie. Et plutôt de commencer par dire, ok, comment j'ai envie de me sentir? Comment je vais faire pour me sortir de là? Comment je peux résoudre ce problème-là? C'est tout simple, en fait. C'est tout bête, mais en fait, en réalité, il y a énormément de personnes dans ce monde qui souffrent, qui sont dans des situations qui ne leur plaisent pas, dans des vies qui ne leur plaisent pas, dans des corps qui ne leur plaisent pas, dans des relations qui ne leur plaisent pas. Ils y sont, ils y restent, ils en souffrent, et à aucun moment, ils ont cherché sur Google une solution. À aucun moment, ils ont appelé quelqu'un qui pourrait les aider, en fait, en leur demandant, et t'aurais pas une idée comment je peux faire? C'est juste ça, en fait. C'est juste arrêter de constater la situation et se dire « Ah, mais pourquoi ça m'arrive à moi ?» Et du coup, je m'englue un peu dans mon drama et se dire « Ok, Google est mon meilleur ami. Il y a plein de ressources aujourd'hui qui existent. Je vais commencer par me poser la question « Comment est-ce que je peux me sortir de là ? Comment j'ai envie de me sentir ? Comment j'ai envie d'être dans 10 ans ?» C'est juste question de questionnement, en fait. Je pense que c'est la première chose à faire dans la vie. Vraiment.
Et en plus, il existe à peu près partout, surtout sur Internet, puisqu'on trouve de tout partout, mais il existe quelqu'un ou quelque chose, un article, une vidéo, un coach qui propose des solutions ou qui parle des solutions à un problème. Il n'y a pas un seul problème que tu ne peux pas résoudre, en fait. C'est ça qui... Alors après, bon, évidemment, il y a toute nuance, toute difficulté, c'est plus facile à dire qu'à faire, etc. Ça, c'est sûr. Mmh. et que si c'était aussi simple, tout le monde irait bien dans le meilleur des mondes. Et en fait, non, parce que ça montrait le niveau et puis ça mettrait encore plus d'attente. Donc, de toute façon, le déséquilibre sera toujours là. Mais je te rejoins sur ça. S'il y a un problème, si vous l'avez identifié, vous pouvez toujours essayer de trouver une. Enfin, voilà, aller regarder ce qui se fait comme solution ou comme piste de réflexion pour corriger le truc. Ça prendra le temps que ça prendra, mais déjà, c'est le pied à l'étrier qui démarre bien.
C'est clair.
Avant de passer aux trois petites questions de fin que j'ai l'habitude de poser, je voudrais quand même revenir sur la détox. Alors, je sais que tu as pas mal parlé de détox. J'ai un avis qui est pas complètement établi sur ça parce que j'ai pas assez de connaissances et j'essaie de pas trop avoir d'idées arrêtées lorsque j'ai pas toutes les informations en ma possession. On sait quand même que le mot détox, ce que ça représente, c'est un truc hyper, hyper marketing, vachement à la mode. J'aimerais déjà, détox, qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Et détox de quoi ?
Alors, comme tu dis détox, c'est hyper marketing. Pour moi, détox, ça veut plus dire dépuratif, vraiment. Il y a trop de bullshit, en fait, autour de la détox. Partout, sur Internet, dans les magasins, voilà. Donc, détox, pour moi, avant, c'était vraiment associé au mot bullshit. Et plus j'ai avancé, notamment dans mes formations de biologie, naturopathie, botanique, etc., plus je me suis rendu compte que, en fait, non, ce terme, il y avait un truc vachement plus intéressant qui se cachait derrière, notamment tout ce qui va être dépuratif, tout ce qui va être soutien aux émonctoires, oxygénation, etc. Et que, en fait, ben, on trouvait que du bullshit, encore une fois, sur le marché. Et c'est pour ça que moi, j'ai eu envie de me lancer justement là-dedans pour apporter des vraies solutions. Mais ça, je pense qu'on y reviendra. Donc, en réalité, la vraie détox, on peut appeler ça une cure dépurative. En fait, c'est tout simplement le fait de venir aider et soutenir nos organes émonctoires. Donc, c'est un petit peu comme les organes éboueurs de notre organisme. C'est ceux qui sont un peu en charge de traiter nos déchets, nos toxines, etc. Et ils le font très bien, ils le font complètement naturellement, notre corps est fait pour ça. Et en fait, la cure dépurative, l'idée, c'est de venir aider ces organes émonctoires-là à continuer à bien faire leur travail, les soutenir et les drainer aussi, parce qu'on est dans une société où on n'a plus du tout la même consommation ni alimentaire, ni cosmétique, ni quoi que ce soit, que ce pour quoi on était conçu à la base, tu vois. Donc, que ce soit des perturbateurs endocriniens, de la cosmétique, du gras, des sucres, enfin des tas de trucs. Le rôle de la cure dépurative, c'est de venir soutenir tes organes émonctoires, les drainer, leur apporter un maximum d'antioxydants aussi pour qu'ils fassent bien leur travail, les drainer et par exemple enlever des substances de ton corps que tes organes émonctoires ne savent pas enlever, comme par exemple les métaux lourds à la base, tu vois. Donc voilà ce que c'est la vraie cure dépurative. Voilà, c'est pas de la molonite ou je ne sais pas quoi.
J'avais fait une formation en phyto, aromathérapie, quand j'étais encore en France, c'était à Toulouse. Et justement, c'est intéressant parce que les émonctoires, pour n'en citer que les deux principaux, ça va être le foie et le rein. Il va y avoir la peau, les poumons aussi d'une certaine part. Et, ouais. Et c'est ça en fait. C'est en fait donner. Je sais qu'il y avait des plantes qui aident en fait à soit réparer un petit peu. C'est des mots grossiers, attention, s'il y a des médecins qui sont hyper sérieux sur le truc, n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis et ne pas trop juger ce que je vais dire, hein. C'est pour vulgariser, mais c'est vraiment nettoyer le foie, soit le réparer, entre guillemets, toujours. Je sais qu'il y avait le radis noir, par exemple, c'était un truc qui était assez puissant. Le rein aussi, tout ce qui est pissenlit, tout ça, c'est vraiment pour drainer le rein, pour faire pisser, hein, en soi. Je me rappelle plus parce que je l'utilise pas du tout au quotidien, malheureusement. J'avais fait cette formation, je trouvais ça hyper intéressant, et en fait en pratique, dans mes consultations d'ostéo, je l'utilise très 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 peu, en tout cas pas dans ce secteur là mais bon, voilà, c'était pour en parler.
Mais c'est hyper intéressant, enfin, moi je trouve que c'est hyper intéressant de venir soutenir tes organes et de faire le travail vraiment sur des organes émonctoires qui sont qui stockent, hein, des toxines, des émotions, des tas de choses. Donc c'est vrai que c'est un travail qui est super intéressant. Moi, je sais que dans ma cure dépurative, je travaille pas mal avec le desmodium aussi, le chardon-marie, l'aloe vera, des choses comme ça aussi. Puis il faut aussi s'adapter en fonction du passif de la personne, tu vois. Typiquement, moi, à la base, j'ai commencé à faire des cures dépuratives pour moi-même. C'est pour ça que j'ai créé ensuite le programme, parce que je me suis fait enlever la vésicule biliaire quand j'avais 19 ans. Et alors, gros bazar, le transit, la digestion, tout en vrac. Et du coup, je me suis dit, OK, attends, je vais aider mon corps. Et voilà, donc bien sûr, les plantes, la nature, même par l'alimentation, ça passe avant tout par l'alimentation, hein, une cure dépurative.
Et toi, t'en as trouvé un bénéfice net ? T'as remarqué une différence de suite ?
Ah oui, truc de dingue. Ah oui, truc de fou. Truc de fou, je savais qu'il fallait 21 jours pour vraiment que les choses soient faites et en profondeur sur tous les émonctoires. La plupart des gens pensent qu'il faut travailler que sur le foie. Or, c'est faux. Il faut travailler sur nos 6 organes émonctoires pour que ce soit bien fait. À savoir, quand on est une femme, le 6e, c'est l'utérus, qui est un organe émonctoire qui est trop souvent oublié, mais qui en est un. Il faut vraiment les 21 jours, donc les 3 semaines, il fallait que ce soit fait en douceur. Le but, c'est pas de décaper, de se vider, faut pas jeûner, faut quand même que ce soit quelque chose de plaisir. Il faut bien manger derrière ensuite, enfin, faut avoir des bonnes habitudes alimentaires, etc., une bonne hygiène de vie. Donc, oui, moi, je sortais d'une période de 5 ans où j'avais passé mes jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi à me mettre des mines pas possibles en soirée, à boire beaucoup d'alcool. J'étais fumeuse aussi, donc voilà, grosse fêtarde. Du jour au lendemain, j'arrête tout, je deviens sportive. Ok, ben là, je vais avoir besoin de nettoyer un peu les excès que j'ai fait pendant des années, reprendre mon corps en main physiquement, oui, mais à l'intérieur aussi. Donc j'ai commencé à le faire et j'ai eu des effets de fou sur ma peau, sur mes cheveux, sur mon sommeil, sur... Franchement, surtout sur mes douleurs inflammatoires, mes règles aussi, sur la douleur de mes règles, sur mon humeur, sur énormément de choses. Donc j'ai commencé à partager ça, et c'est suite à ça en fait qu'on m'a dit « Mais Chloé, partage-nous ta détox, c'est quoi que tu fais ?» Et du coup, je me suis dit « Bon ben écoute, je vais créer ce programme alors, c'est parti. » Et j'ai créé mon premier programme Body Detox, une vraie cure dépurative, voilà.
Eh bien, pour les plus curieux, ils pourront aller voir, ils pourront aller regarder. Tu as d'autres programmes à part ça ou tu t'es contenté de... Enfin, je sais pas, tu fais du coaching peut-être ?
Ouais, alors en fait, en vraiment naturopathie, j'ai que le programme Body Detox, donc qui est alimentation, naturopathie, bien-être, etc. J'ai vraiment que ça. Et ensuite, c'est plus basé développement personnel. Je fais du coaching sur 3 mois. J'ai des coachings de groupe premium de développement personnel sur les déclics de vie. J'organise des retraites aussi un peu partout autour du monde, des retraites de développement personnel, d'empouvoirment, comme j'aime le dire, un peu partout autour du monde. Et j'ai un membership, donc en fait, j'ai créé un produit à tout petit prix parce que je me suis dit, c'est hors de question que le dev perso, ce soit dédié aux personnes, aux initiés, aux personnes qui ont vraiment l'habitude de ça ou qui ont vraiment les moyens. Il faut que ce soit accessible à tout le monde, en fait, d'aller bien dans sa vie. Donc, j'ai créé un abonnement, en fait, à tout petit prix chaque mois, 29 euros par mois pour que les gens puissent découvrir des exercices de dev perso à mettre en pratique dans leur vie, des lives, des intervenants, voilà, plein de petites choses, des méditations, etc. Voilà, qui s'appelle la Bloom Academy. Tout est Bloom.
Chloé, pour terminer et clôturer ces épisodes, j'ai donc pour habitude de poser 3 questions de fin. Première question, si on pouvait revenir 10 ans en arrière, quel est le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre ?
J'avais 18 ans. J'aurais aimé entendre avant que j'étais aimée, qu'on m'aimait, que mes parents m'ont toujours aimée, que j'avais pas à courir partout après la validation des autres, qu'il fallait déjà que je me donne ma propre validation. Je pense que ça m'aurait... Ouais, je pense que c'est le conseil qui m'aurait le plus servi, ça m'aurait évité pas mal de souffrances, mais du coup peut-être que ça m'aurait aussi pas fait faire de trucs super que j'ai fait, mais ouais, je crois que c'est vraiment le conseil que j'aurais aimé entendre. T'es aimé et arrête de chercher la validation autour. Donne-toi ta propre validation. T'es capable de faire des choses et voilà, c'est déjà en toi. C'est déjà à l'intérieur.
Deuxième question, est-ce que tu as eu un modèle ou un mentor qui l'est encore aujourd'hui ?
Modèle, non.
Ou une modèle, hein, ne soyons pas sexistes, évidemment.
Ouais. Oui, bien sûr. Modèle, non. Mentor, oui, j'en ai eu plusieurs. Même quand j'étais dans le fitness, j'en ai eu plusieurs, des sportifs qui aujourd'hui font plus forcément partie de ma vie. Ça a été des personnes sur mon chemin. Et des mentors, j'en ai toujours aussi. Et c'est des personnes peut-être dans le business, dans le développement personnel, etc., qui sont toujours là, la plupart que je n'ai pas encore rencontrés, ça me serait tardé.
Est-ce que tu as un nom à nous donner ?
Ben, j'en ai plusieurs, il y en a pas mal. Il y a Rachel Hollis, alors il n'y a pas de français pour le coup, le seul francophone c'est Martin Latulippe, pour les personnes qui connaissent du coup, qui est au Canada aussi. Voilà.
Qui a un podcast aussi, je crois, ou qui est passé plusieurs fois dans les podcasts ici.
C'est ça, voilà, donc en homme francophone, je dirais Martin Latulippe, Et Gabrielle Bernstein et Rachel Hollis, ouais, qui m'inspirent énormément. Et c'est vrai que je suis pas mal leur coaching, leur groupe de parole, les masterminds, etc. Ouais. Voilà.
Ok. Est-ce qu'il y a un livre que tu aimerais recommander aujourd'hui aux auditeurs qui t'a marqué dans ton parcours, dans ta vie?
Ouais. Le tout premier livre de dev perso que j'ai lu. Et alors que moi, je détestais le dev perso, je pensais que c'était réservé aux gens qui étaient un peu perchés. C'est celui qui s'appelle « Foutez-vous la paix » de Fabrice Midal. Il est super facile à lire. Et il est simplement fait pour apprendre à se foutre la paix. Arrêter de tout le temps avoir des méga exigences qui nous oppressent et qui nous bouffent tout le temps. De vouloir tout le temps tout réussir et réussir des tas de choses alors que parfois, il n'y a rien à réussir. Donc ouais, le livre « Foutez-vous la paix » de Fabrice Midal qui a révolutionné mon alignement.
Eh bien, première recommandation de ce livre sur le podcast, c'est la première fois qu'on le sort. Je crois que je connais de nom, mais je ne l'ai pas lu, donc j'irai juste un œil. Je laisserai aussi la référence dans les notes de l'épisode, le titre du livre et l'auteur. Eh bien, écoute, ça a été un plaisir. Si on veut, si ceux qui sont tombés sur ce podcast, qui l'ont écouté jusque-là, on l'espère, parce qu'ils ont appris plein de trucs sur toi, s'ils veulent en apprendre plus sur toi, s'ils veulent te retrouver, que ce soit sur les réseaux, avoir un peu plus de contenu, ou peut-être te contacter, comment ils peuvent s'y prendre?
N'importe où, sur tous les réseaux sociaux, je suis sous le nom de Chloé Bloom. Donc sur YouTube, il y a pas mal de choses visuelles, des rituels, des routines. Mon podcast s'appelle Une vie plus saine et sereine aussi, qui est sur toutes les plateformes d'écoute. Instagram, c'est Chloé Bloom, LinkedIn aussi, Pinterest aussi. Je suis pas sur TikTok et voilà.
Ouais, alors je n'ai aucun avis sur TikTok, enfin aucun avis, non, j'ai pas d'avis sur TikTok, mais je ne suis pas non plus sur TikTok, je sais pas trop ce que ce truc va donner. J'ai l'impression que c'est un énorme carton, mais bon, j'ai du mal à comprendre encore. Je mettrai encore une fois tout ça dans les notes, la description de l'épisode. Vous pourrez retrouver donc les liens qui correspondent à tes réseaux, à ta chaîne YouTube aussi. Écoute, on va s'en terminer ici. Je te remercie d'être passé. Ça a été un plaisir de recevoir que tu sois la première fille à passer sur le podcast. Voilà, je pense que c'était des interrogations et des réflexions un petit peu intéressantes pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Tu vois, moi j'ai posé des questions qui personnellement m'intriguaient. Donc voilà.
C'est cool, alors.
Écoute, ne quitte pas de suite la fenêtre, il y a une petite synchronisation qui s'est faite. En tout cas, je te remercie, je te souhaite de passer une bonne journée, puis je te dis peut-être à très bientôt.
À très vite.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié cette conversation avec Chloé, partagez cet épisode auprès de 3 de vos amis en leur envoyant directement l'épisode. Vous pouvez aussi partager l'épisode ou le podcast en général sur vos réseaux, en story Instagram, en mentionnant mon compte Biomécanique Podcast. Je me ferai un plaisir de vous repartager en suivant. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez laisser aussi une note de 5 étoiles au podcast sur l'application Apple Podcast, disponible uniquement sur l'iPhone malheureusement. Également un commentaire pour me dire pourquoi vous écoutez l'émission, pourquoi vous pourrez la recommander à vos amis et s'il y a des épisodes qui vous ont particulièrement marqué. Et pour recevoir les épisodes du podcast directement dans votre boîte mail dès leur sortie ainsi que la newsletter privée du podcast, il suffit de cliquer sur le premier lien qui est en description. Et vous inscrire à la lettre biomécanique. Vous recevrez cette newsletter privée une fois par mois. En gros, ce sont mes conseils, mes réflexions et mes recommandations perso pour vous aider à améliorer votre santé, vous donner des astuces, optimiser votre pratique sportive et mieux comprendre la mécanique du corps, tout simplement. Un seul lien, biomecaniquepodcast.com/lettre pour ça. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et à toutes. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Biomécanique. Ciao.